Bienvenue dans ce lieu de culte. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement agréable à regarder. Et en plus, les paroles du chant sont très belles. C'est Noël ce soir. Jésus, notre espoir, Dieu vient dans notre histoire. C'est Noël ce soir. Jésus est notre espoir. Et c'est ce refrain qui résume très bien Noël pour moi. Jésus vient et Dieu descend parmi nous. L'année dernière, Noël s'est déroulé chez nous, à la maison, sans vraiment trop d'espoir. L'espoir, on a quand même aujourd'hui cet espoir que cette pandémie va se terminer. Aujourd'hui, nous vivons quand même toujours un peu dans cette crainte. La crainte qu'on n'y arrive pas. La crainte qu'on se retrouve à l'hôpital. La peur au ventre, la peur d'être contaminé, la peur de contaminer, la peur de se retrouver aux soins intensifs, la peur de mourir peut-être. Pour beaucoup, nous allons peut-être passer la fête, et d'autres vont passer la fête avec un bon repas, des cadeaux, et à minuit se dire « Joyeux Noël ». Faire la fête un instant, et puis, hélas, redescendre sur terre et constater que rien n'a vraiment changé. Et pourtant aujourd'hui, c'est Noël.
Il était une fois, dans un petit village de montagne, une jeune fille qui voulait vivre un Noël autrement. Les lumières, le Père Noël et ses cadeaux, les repas interminables, ça fait partie des habitudes. Elle participait bien à tout cela, mais malgré la surprise et la joie qu'apportent les cadeaux, le sapin qui scintille et l'abondance de mets succulents, elle restait toujours sur sa faim, si l'on peut dire. Car elle avait faim d'autre chose. Faim d'un autre Noël. Faim d'un Noël qui rassasie le cœur et remplit les yeux d'étincelles et de lumière. Mais elle n'avait pas trouvé cette lumière éclatante qui met une joie profonde dans le cœur, une joie qui demeure même lorsque la fête est terminée. En effet, les années précédentes, sitôt le nouvel an arrivé, le sapin enlevé, les guirlandes rangées et les cadeaux étrennés, elle retombait dans une vie fade et sans saveur, comme si rien ne s'était passé. Retomber dans la grisaille de la vie quotidienne l'angoissait à l'avance. Cette année, elle s'était jurée que ça ne se passerait plus ainsi. Se promenant sur la place du village, elle vit une maison éclairée avec des petites bougies. Elle s'approcha. Cette maison n'était pas comme les autres maisons, avec des guirlandes partout. Seulement une bougie sur chaque fenêtre brillait dans la nuit qui tombait. Intriguée par cette décoration presque insignifiante, elle découvrit à côté de chacune des bougies un petit rouleau de papier comme un message secret. Un peu gênée, mais curieuse, elle ne put résister au désir de lire ce mystérieux parchemin. Elle déroula le premier et lut. le peuple qui marchait dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. Étonnée, elle saisit un deuxième rouleau. N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un grand sujet de joie. En lisant ces mots, elle sentit monter en elle une vague de joie, comme une réponse à son attente secrète. Elle s'avança vers la troisième bougie et lut le troisième message déposé sur la fenêtre. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, il a reçu l'autorité d'un roi pour arracher le peuple au pouvoir qui pèse sur lui. C'est le libérateur. À la fois troublée et bouleversée, elle se dirigea d'un pas décidé vers la porte de cette maison. Ces paroles avaient éveillé en elle une soif de comprendre le sens profond de ce message. Elle sentait dans son cœur qu'elle vivait un moment important, comme si un mystère allait lui être révélé. Le cœur battant, elle frappa trois petits coups. Une dame souriante vint lui ouvrir. « Bonjour, soyez la bienvenue, nous vous attendions. »«
Vous m'attendiez ?»
dit-elle toute surprise.
« Oui, pour nous, Noël, c'est la venue d'un sauveur. C'est la vie de Dieu qui vient dans la vie des hommes. Le Seigneur nous a demandé de le reconnaître dans celui qui vient frapper à notre porte. Installez-vous. Vous voyez ?» Nous avions prévu un invité de plus.
Toute surprise et émue, la jeune fille entra dans la salle à manger. La famille était réunie et une place vide avait été effectivement réservée. Ce soir-là, cette jeune fille partagea un bon repas dans une ambiance familiale paisible et joyeuse, mais plus encore. Elle découvrit que la vraie nourriture n'était pas dans les assiettes, mais dans le cœur de ceux qui l'avaient accueillie au nom d'un sauveur dont elle ne connaissait même pas le nom. Mais qui était-il pour apporter tant de joie dans cette famille et pour donner à ces personnes des cœurs si ouverts? Elle avait une impression bizarre et jamais encore ressentie que quelqu'un d'invisible était là, avec eux, et que c'était sa présence qui transformait l'ambiance et faisait la différence. Elle aurait souhaité ne jamais quitter ce lieu. Avant de partir, heureuse et rayonnante, la jeune fille demanda au papa : « Vous m'avez parlé d'un sauveur, mais je ne connais pas son nom. Pouvez-vous me dire qui il est ?» Et l'homme, souriant, avec un petit air réjoui, répondit « Mais bien sûr, on l'appelle Jésus ou encore Emmanuel, mais ce nom d'Emmanuel ne sert à rien si on ne découvre pas ce qu'il signifie. Dieu avec nous. »
Je vous lis ce que le prophète a déclaré il y a 700 ans avant la venue de Jésus sur terre, dans Ésaïe 6, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel, si on ne sait pas ce que ça veut dire, ça ne sert à rien. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, Jésus, notre espoir.
En Jésus seul est mon espoir. Mon chant, pierre angulaire, so solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant, auquel mystère ce don d'amour, de sainteté, aille pas ce qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré sur lui. Lumière vaincue par les ténèbres, quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir, il est à moi, je suis à lui. Racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Du Christ je tiendrai. Je vis en paix, je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie.
Pour la méditation de ce matin, je vous propose trois lectures dans l'Ancien Testament. Une première dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 7, versets 13 et 14. Ésaïe dit alors : Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est étonnant de lire ces deux versets ensemble. D'habitude, on ne lit que le 14 et le 13, on ne le lit pas. J'ai voulu le mettre, parce qu'il m'a semblé quand même que c'était un bel avertissement. Ésaïe 63, verset 15. « Regarde du ciel et vois. de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance? Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Prophète qui parle. Et un peu plus loin, au chapitre 64, les cinq premiers versets. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu es irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps, jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Et un passage dans l'Évangile, somme à Noël quand même, donc il fallait quand même un passage de la Nativité, dans l'Évangile de Luc, Luc 2, versets 6 à 11. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Prions. Seigneur, encore une fois, j'aime à dire que ces textes ont traversé les siècles pour nous. Encore une fois, nous voulons nous rappeler de ta naissance, nous rappeler que tu es descendu sur terre pour nous. Encore une fois, Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur, que nous puissions entendre ce message, et peut-être ces anges qui chantent autour de nous. Qu'à toi revienne encore une fois toute la gloire. Amen. Vivre notre Noël d'aujourd'hui dans la joie, sans se soucier du lendemain, est difficile. C'est pas évident, on le sait. Et c'est ce que dénonce déjà le prophète Ésaïe. La patience des hommes est mise à rude épreuve. Mais si nous disons bien le verset, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes? Ésaïe s'adresse au peuple de Dieu. Il n'en peut plus. Il a beau prévenir et prophétiser, il n'en peut plus de ce peuple rebelle qui n'écoute pas. Il répète, il dit, est-ce trop peu que vous me lassiez? Il est fatigué. Et d'ajouter déjà que vous lassiez la patience des hommes, attention à celle de Dieu. Attention de ne pas lasser la patience de Dieu. Mais Dieu, dans sa patience, il fait tout bien en son temps, comme on l'a chanté. Il est patient. On pourrait s'arrêter là, comme ça, nous contenter de ce que nous avons, nous savons. Dieu est patient, lent à la colère et riche en bonté. On pourrait se contenter d'un Noël bon enfant, comme dans les films de Noël. Mais ça finit toujours bien, le miracle de Noël. Super. Si, avec ça, effectivement, vous savez que le monde ne voit que ça de Noël. Tout se passe bien. Tout va bien. On pourrait se retirer nos masques et boire un petit coup ensemble dans la bonne humeur de Noël. Mais oui, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. La semaine dernière, notre frère Guy vous a fait chanter « Minuit chrétien ». Chant exceptionnel. Superbe chant. Et si on relit les paroles, « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle » où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le coup. La semaine dernière également, notre frère Daniel nous rappelait, oui, je n'étais pas là, je sais bien, mais j'ai tout écouté. J'écoute, je suis parmi vous aussi. Daniel nous rappelait que tout a commencé à la Genèse. Dieu a fait la femme et l'homme très bons. Et il a dit, mais Satan est venu mettre son grain de sable. Mais Jésus est venu pour effacer cette tâche originelle. Et le chant continue, et de son père arrêter le courroux. Le courroux est par définition une forme de dire la colère, l'irritation, mais plus que ça, la colère intense, une vive colère, une colère avec réaction, avec emportement. Tiens, pourtant Dieu est lent à la colère. Pourtant, il nous a dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Il vient pas avec de la colère. Ça, c'est la bonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, comme Daniel l'a dit, Dieu passait ses soirées avec l'homme et la femme, mais pas de télévision, donc. Ils dialoguaient ensemble. Mais ce grain de sable. La suite du verset. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il faut arrêter le courroux de Dieu. Il nous faut donc un sauveur. Alors qu'Ésaïe annonce un signe du Seigneur, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Les anges annoncent au berger que c'est fait. Il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. Emmanuel. C'est fait. Le Sauveur est là. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Dieu vienne sur terre comme un bébé, malgré les prophéties. Mais il y a un texte qui nous dit que quand les mages ont visité Hérode, lui ont dit, tiens, je viens voir le roi des Juifs, il est dit que Hérode appela les prophètes et ceux qui connaissaient la loi et qui l'ont dit, ben, il va venir à Bethléem. Mais personne. Il nous a dit dans ce verset que toute la ville, tout Jérusalem était au courant. Personne ne va à la crèche. On ne s'y attendait pas. Mais d'après ce que nous avons lu, Dieu est capable de grandes choses. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais les montagnes, s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui se bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Oh, si tu intervenais, le Covid serait arrêté. Ce virus mondial serait anéanti. Oh, si tu faisais quelque chose, ce serait beaucoup mieux. Verset 3, lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranleraient devant toi. Ô Dieu, étonne-nous. Notre prière, Seigneur, au secours, que ça s'arrête. Seigneur, fais un miracle. Seigneur, fais un prodige qu'on ne s'attend pas. Étonne-nous. Mais parfois, on ne s'étonne même plus de Dieu. Et parfois, le ton change. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Ils sont plus rien. T'es où? Je te connais plus. Il fait plus rien pour moi. Je suis désemparé. Au secours. J'ai peur. Ah! Oui. Combien de fois est-ce qu'on dit j'ai peur sur une journée parfois? J'ai peur. Nous y voilà, la peur. Quand le péché est entré dans le monde, il a entraîné avec lui deux premiers sentiments. Dans Genèse 3, 9, 10, il nous faisait parler de la honte. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et que je me suis caché. » J'ai eu peur. Puis dans Genèse 2, 25, avant qu'ils ne désobéissent, voilà ce qu'il nous a dit, la honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Comme ça, ils se baladaient, ils n'avaient pas honte. Essayez maintenant une fois d'aller vous balader place à l'envers, sans vêtements, vous verrez quelle honte. Et pourtant, il y a quand même des gens, des naturistes, des nudistes qui essayent d'éliminer, de vivre sans cette honte. Moi, je pense que derrière cette réaction, il y a quand même le rejet de Dieu. Le rejet de notre état de pécheur. Pécheur à sauver. Et puis, en Genèse, il y a la peur, je vous rappelle. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme connaissaient Dieu comme créateur, comme quelqu'un de proche. Et ce qu'ils savaient de la conséquence de ces actes, c'est ce que Dieu leur avait dit. Ils n'avaient rien vécu encore. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux te promener tout nu même. Pas de problème. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Tu mourras. La peur d'Adam n'est pas d'être piqué par une araignée, ou de souffrir du vertige, ou d'avoir mal, ou d'être rejeté, ou d'être persécuté, ou d'avoir le corona version X, Y ou Z, ou même peur d'être vacciné de force. Adam ne connaît pas ça. Adam n'a peur que d'une chose. La mort. Et ce qu'il sait, c'est ce que Dieu lui dit. Il ne connaît que la voix de Dieu aussi, qui lui dit, tu ne mangeras pas de ce fruit, sinon tu mourras. L'homme a peur de mourir. Ça, c'est devenu dans ses gènes. Alors, Dieu doit parler autrement, parce que il doit parler pour le rassurer. Et si nous revenons à Noël, je nous rappelle que les anges sont des messagers qui parlent de la part de Dieu. Et voilà ce qu'il dit, deuxième parole de l'ange à Marie, après qu'elle fut troublée par la salutation, « Ne crains point. » Il dit la même chose à Joseph en Matthieu, « Ne crains point. » Et dans le texte que nous avons lu de l'annonce au berger, « Ne craignez point. » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ne pas craindre, ne pas avoir peur. Depuis la chute, pour passer son message, pour entendre la voix de Dieu, Dieu doit passer cette barrière de la peur. Quand on a peur, on n'entend plus rien. Et si Joseph et Marie et les bergers étaient restés prostrés dans leur trouille des événements, rien n'aurait pu être possible. Ils n'auraient même pas répondu, ils auraient eu trop peur. La peur, la crainte nous bloque, nous traumatise, nous empêche d'entendre le reste du message d'amour du Seigneur. Il faut passer au-delà de cette peur pour entendre la bonne nouvelle. Si aujourd'hui nous écoutons davantage le monde et celui qu'il dirige, qui est le prince de ce monde, nous n'entendrons pas la voix de Dieu. Et voilà à quoi l'homme s'est arrêté dans le jardin d'Éden. Et si nous, on s'arrête à ça, on n'entendra plus rien d'autre. Genèse 2, 1, 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? On entend souvent ça. Dieu a-t-il réellement dit ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Aujourd'hui, Dieu nous dit, ne crains pas. Il nous rappelle encore, ne crains pas. Ne craignez pas, je vous annonce une bonne nouvelle, il vous est né un sauveur. C'est fait, il est là. Et quelque part, il rejoint un petit peu le mensonge de Satan. qui dit à la femme, vous ne mourrez point. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Autrement dit, vous ne mourrez point. C'est clair que physiquement, oui, il nous faut mourir. On a bien compris que c'est de la vie éternelle que Dieu nous parle. Ce n'est pas de la mort physique. Et Jésus nous a montré le chemin en mourant sur la croix. Alors, je vous pose peut-être la question, de quoi ? De quoi ? Je me pose la question aussi. De quoi avons-nous peur ? Qui nous fait parfois ne pas entendre la voix de Dieu. Et voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 41, « Ne craignez rien, car je suis avec toi. » Si vous dites « J'ai peur », non Seigneur, tu n'es pas avec moi. « Ne craignez rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit « Ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Ne crains rien. » Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Tu as du prix à mes yeux. Ah, cette phrase. Tu as du prix à mes yeux. Je crois que si on n'avait pas de prix à ses yeux, Jésus ne serait pas venu sur terre. Il ne serait pas né. Mais tu as du prix à mes yeux. Tu es honoré et je t'aime. Ne crains rien. « Car je suis avec toi. » Ésaïe 43. Alors en ce jour de Noël, si il nous venait peut-être l'envie de dire avec le prophète Ésaïe, « Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Où sont ton zèle et ta puissance ? Qu'est-ce que t'as fait de ta puissance, Seigneur ?» Dieu nous répond, « Avec ma puissance, ben, je peux tout. Je peux fendre la mer. Je peux... faire trembler les déserts, comme il est écrit dans les psaumes. Je peux ouvrir les écluses des cieux. Je peux. Mais de cette puissance, je ne ferai qu'une seule chose. Un petit enfant qui sera appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Une seule chose qui sera le sauveur du monde et notre sauveur. Je vous souhaite un joyeux Noël. Amen. Seigneur, encore une fois, merci parce que tu es venu parmi nous. Et quand tu es reparti, tu nous as dit, je vous donne ma paix. Tu es avec nous. Seigneur, que nous puissions nous accaparer cette promesse, te sentir toujours à nos côtés, toujours sentir ta main dans la nôtre, ou plutôt la nôtre dans la tienne. Merci parce que, encore une fois, tu nous répètes, ne crains rien. Merci mon Dieu. Amen.